Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble dans nos lectures en liberté. Et ce soir, je vais démarrer avec vous la lecture d'un petit livre de Mélis de Kerangal, dont le titre est « À ce stade de la nuit ». Dans ce petit livre, Mélis de Kerangal nous parle de l'île de Lampedusa. Et cette île évoque surtout pour elle, en plus des événements tragiques, l'auteur du roman « Le guépard », Giuseppe Tomazzi di Lampedusa, et le film de Visconti, qui a été tiré de ce roman. Donc, à ce stade de la nuit, de Mélis de Kerangal. Une cuisine, la nuit. L'unique lampe allumée crée au-dessus de la nappe un cône de lumière dorée que matérialisent les particules en suspension. Une fois l'ampoule éteinte, je doute toujours de leur existence. Je suis rentré tard et je traîne. Assise de travers sur la chaise de paille, le journal étalé bien à plat sur la table et lentement feuilleté. Le café du matin versé dans un mug, réchauffé au micro-ondes et lentement bu. Tout le monde dort. Je fumerais bien une cigarette. La radio diffuse à faible volume un filet sonore qui murmure dans l'espace, circule et tournoie comme le ruban de la gymnaste. Je ne réagis pas aussitôt à la voix correctement timbrée qui, inaugurant le journal après les 12 coups de minuit, bégaye la tragédie sinistre qui a eu lieu ce matin. Je perçois seulement une accélération. Quelque chose s'emballe. Quelque chose de fébrile. Bientôt, un nom se dépose. Lampedusa. Il résonne entre les murs, stagne, s'infiltre parmi les poussières. Et soudain, il est là, devant moi, étendu de tout son long, se met à durcir à mesure que les minutes passent, coulée de lave brûlante plongée dans la mer. Je rassemble et organise l'information qui enfle sur les ondes, bientôt les sature, je l'étire en une seule phrase. Un bateau venu de Libye, chargé de plus de 500 migrants, a fait naufrage, ce matin, à moins de 2 km des côtes de l'île de Lampedusa. Près de 300 victimes seraient à déplorer. Il me semble maintenant que le son de la radio augmente tandis que d'autres noms déboulent en bande. Érythrée, Somalie, Malte, Sicile, Tunisie, Libye, Tripoli. Tandis que les nombres prolifèrent, se chevauchent, s'additionnent ou se fractionnent, tandis qu'ils comparent 283 noyés lors d'un naufrage à l'aube de Noël en 1996, près de 3000 morts ou disparus depuis 2002, environ 350 aujourd'hui, ce 3 octobre 2013. À ce stade de la nuit, je suis tourné vers la radio et scrute les bâtonnets verts fluo qui avancent et reculent sur le sonogramme, ce tracteur électrique qui décrit et analyse les voix que j'entends, leur intensité, leur fréquence. Mais il y a tant de personnes indignées dans le studio que les traces lumineuses s'affolent et vont buter contre les repères. Cris. La première image qui me vient à l'esprit est le visage de Burt Lancaster. Il apparaît dans un flash. Je l'identifie aussitôt, plan américain, visage et buste en majesté, épaulé dans une veste élégante, lavalière blanche. Il est Don Fabrizio Prince Salina. Il est le guépard de Luchino Visconti. C'est lui. Je fixe le balai des poussières dans le faisceau lumineux qui tombe de l'abat-jour orangé. Le soir tombe. Et Don Fabrizio, de retour dans sa résidence d'été de Donna Fugata, s'apprête à recevoir Don Calogero, un paysan du village, désormais plus riche que lui, incarnation empressée et mal fagotée de la bourgeoisie montante, agent d'un nouvel ordre social avec lequel le prince devra s'allier afin, justement, que tout change, pour que rien ne change. Le prince est debout, en haut de l'escalier qui conduit au salon du palais, torse incliné, dominant la volée de marches. Il se tient noble et figé dans l'éclat de son nom. Et ce qui émane de lui manifeste le charisme et l'autorité de son rang et de son sang. Bientôt, entouré de son fils et de son neveu, la jeunesse la relève. Il pose les yeux sur le petit homme sagace qui gravit l'escalier engoncé dans un frac qui n'est pas de circonstance. Cet homme dont il sait l'ascension, dont il sait l'assaut, il le salue d'une voix forte et chaleureuse quand son expression, elle, demeure étrangement lointaine. Il l'accueille dans sa demeure et le fait entrer chez lui. Un instant qui est peut-être la seconde décisive du film, ce mouvement de bascule entraînant l'engloutissement de l'ancien monde, l'instant où l'aristocratie sicilienne chavire. Le regard du prince est voilé de mélancolie. Il est déjà dans la mort. Burt Lancaster a 50 ans en 1963, l'année du film. Corps athlétique, mâchoire carrée, nez droit, sourire légendaire, blancheur, santé, optimisme, volonté de puissance, que contredisent ses yeux trop clairs, d'un bleu liquide, ses yeux qui sondent l'envers du monde, cette zone intérieure de vacillement et de trouble. Un corps de cinéma taillé dans la machine à fiction hollywoodienne, rompu aux incarnations multiples, 75 films en 50 ans. Et un visage d'acteur. Autrement dit, un visage recouvert d'écriture, les compulsant une à une et les fusionnant toutes en un seul récit dont Burt Lancaster est l'absent. Soudain, l'aristocrate immobile, majestueux en son île, s'efface sous une autre figure, mobile celle-là d'un homme en maillot de bain surgit à l'orée d'une forêt américaine. Il apparaît comme directement issu de la nature, comme à l'état sauvage. C'est Ned Merrill dans The Swimmer de Frank Perry, film de 1968. Ou l'odyssée d'un homme qui a formé l'étrange projet de rentrer chez lui à la nage en traversant une à une les piscines privées des somptueuses propriétés de la vallée où il vit dans le Connecticut. Des piscines qui forment une rivière imaginaire qu'il baptise du nom de sa femme, Lucinda. Au cours de son périple, Ned Merrill croise des propriétaires qui s'étonnent, puis se déclare ravi de le revoir après tout ce temps. Mais ces individus sont si superficiels, enveloppe sans vie flottant sur une débauche de luxe, qu'il ne lui renvoie qu'une sensation palpable d'inanité et de dégoût, une impression de morbidité. tentative de fuite, pour se libérer d'un monde et se réinventer, ou tentative pour rentrer chez soi et retourner à la vie d'avant, désir purificateur de renaître neuf et vierge afin de repartir de zéro. L'homme nage jusqu'à épuisement de son projet fou. Burt Lancaster l'incarne en migrant abîmé dans une trajectoire de plus en plus douloureuse, un parcours où son corps fatigue, souffre et se détériore à mesure que croît la sensation d'être étranger au monde qui l'entoure et doutant de sa réalité. Peu à peu, le prince Salina et Ned Merrill m'apparaissent comme deux versions d'une même humanité, le recto et le verso d'un même homme. Bien que situés aux antipodes l'un de l'autre, puisque figurant l'ornement et le nu, le foncier et le rêve, la terre et l'eau, le continu et le discontinu, le temps et l'instant, ils partagent cette même splendeur du corps qui peu à peu fléchit au cours du film, une même solitude froide sous un soleil qui tape, une même sensation de vieillissement et de vide au spectacle d'une société riche, fermée, égoïste, dîner et bal, cocktail party géante, cette même insondable tristesse. Je les envisage comme deux frères, et plus j'y pense, plus je trouve extraordinaire que Burt Lancaster, désigné si souvent comme un aristocrate du cinéma, soit né à New York en 1913. Issu de l'émigration anglo-irlandaise, et tiennent ensemble ces deux identités qui cohabitent dans le nom de Lampedusa, il est le prince et le migrant. À ce stade de la nuit, je tourne toujours les pages du journal. Je les balaie du regard, je repère les titres, la légende des photographies. J'accroche ce qui est en italique, les gras et les majuscules. Je creuse un peu plus avant dans les pavés de texte. Le montage des articles, d'une logique cryptée, agence différentes focales et la lisibilité du monde est une aventure disloquée. Tandis qu'une voix radiophonique densifie graduellement l'information essentielle de la nuit, surtout des Somaliens et des Érythréens. Un chalutier, entassement, promiscuité, condition d'embarquement des Noirs durant la traite négrière, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Une panne alors que la traversée s'achevait, clandestin. Un passager aurait mis le feu à une couverture afin d'alerter les autres bateaux, tassés les uns contre les autres sans pouvoir bouger. On sautait à la mer, appareillé de Tripoli, femme enceinte, trafic vers 7 heures du matin, l'incendie, on fait chavirer le navire, porter secours, naufrage, fuyant l'insécurité qui règne en Somalie et la dictature érythréenne Fioul.
J'y vais mon sa lessive une fois tous les ans. Et moi j'y vais mon train en roulant la misère. Et moi j'y vais mon train en mendiant mon pain. Quand je vais à la messe, je suis pire que le roi. Tout le monde s'y empresse de s'écarter de moi. Et moi j'y vais mon train en roulant ma misère. Et moi j'y vais mon train en mendiant mon pain. Je serai mort, personne ne pleurera. Il n'y aura rien que les doux à me chanter libéra. Et moi j'y vais mon train en roulant ma misère. Et moi j'y vais mon train en mendiant mon pain. Et moi j'y vais mon train dans ma misère. Et moi j'y vais mon train en mendiant mon pain. Et moi j'y vais mon train en roulant ma misère. Et moi j'y vais mon train en mendiant mon pain. Et moi j'y vais mon train. Et moi j'y vais mon train.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous revenons après le moment musical au texte de Mélis de Kerangal à ce stade de la nuit. Le café brûle dans ma gorge serrée. La dernière fois que j'ai vu le guépard, c'était au Reflet Médicis rue Champollion. Il gatto pardo, copie neuve. Le chef-d'œuvre, la Palme d'Or, 1963. Dans 4 ans, je vais naître. Je m'étais décidé au dernier moment par raccroc afin d'étirer la journée et peut-être de la clore en parachevant sa forme. Une forme d'outre, des heures compactes agglomérées en une seule séquence de travail. J'ai tourbillonné dans l'escalier de service, suis sorti, manteau ouvert, le cheveu sec et la peau tendue par le chauffage électrique poussé à fond depuis le matin, puis j'ai descendu la rue des Tournelles jusqu'à la rue Saint-Antoine, avant d'atteindre la place de la Bastille pour prendre le 86, un autobus bardé de rouge sur les flancs et au-dessus du pare-brise. Les feux étaient verts et dans le couloir qui lui était réservé le long du boulevard Henri IV, l'autobus a roulé à vive allure, le sol et les vitres vibraient. On aurait pu croire le véhicule sur le point de se désarticuler. En moins de 7 minutes, j'atteignais l'extrémité de la rue des Écoles. La restauration de la copie justifiait que le film ressorte comme une nouveauté. On le verrait comme on ne l'avait jamais vu, comme il n'avait jamais été montré. Une brochure en couleur insistait sur le travail des experts techniques qui avaient œuvré à dépoussiérer, raviver, rafraîchir la pellicule. C'était le temps retrouvé. L'œuvre de Visconti, mise au jour par des archéologues de laboratoire, retrouvait une présence parmi nous. Je n'étais pas sensible à ce battage publicitaire, à ces arguments. Les couleurs passées ne m'auraient pas gêné. Pas plus que les voix qui attestaient l'époque, voix de canard légèrement raide et nasillarde. Ces anachronismes qui désignent et matérialisent le temps qui a passé me touchent. Je voulais seulement revoir le film. Pouvoir donner à ce lundi de printemps son tombé parfait avant qu'il plonge dans la nuit. La salle était pratiquement déserte. Il flottait l'odeur spécifique des cinémas de quartier, odeur qui n'est pas celle des multiplexes justement, pas celle du pop-corn et des sucres gélifiés, qui n'est pas celle des chamallows roses poudrés, mais celle humaine de l'émotion ou de l'ennui. Un précipité de velours synthétique, de larmes et de transpiration. J'ai choisi un siège au troisième rang, très proche de l'écran, afin d'être collé au film, afin d'être prise dans l'image, raptée. Alors ce fut le noir. Et j'ai regardé de nouveau le guépard. J'ai reconnu les lieux. J'ai revu la Sicile immobile, les palais, les salons immenses et les enfilades de chambres vides, les combles devenus trop vastes, les terrasses et les jardins, la campagne brûlée. J'ai retrouvé le baroque délabré, les façades qui pèlent, les murs qui tombent en lambeaux comme si le temps de la mue était venu et que la peau d'avant chutait au sol afin de faire voir la nouvelle. J'ai scruté la décrépitude qui signe la lente dépose du temps, tout autant que le manque d'argent, le manque de force. J'ai plissé les yeux sur les champs en pente douce, leur ondulation infinie, sur les oliviers verts de gris, et les chemins de terre où cahotent les voitures à cheval, sur l'aridité et la poussière, sur les têtes de femmes doucement secouées sous les ombrelles noires, accablées de chaleur, regards perdus dans le paysage, sur cet effritement de tout. J'ai entendu de nouveau les aboiements du chien préféré, et le rire d'Angelica lors du dîner à la table du prince, ce rire de gorge, excessif et sexuel. D'une durée obscène, ce rire qui pulvérisait la bienséance d'une société pétrifiée, cassait l'ordre social comme un son trop aigu brise un verre de cristal, un rire en forme d'exécution. Et aussi j'ai revu le bal. La grande scène du bal chez les Ponteleone. Et cette nuit-là, je l'ai vue différente, à la fois plus radicale et plus cruelle. D'une forme tendue, là où je n'avais vu auparavant qu'une méditation sur la nostalgie, un travelling d'une longueur fastueuse et dépressive. J'y ai découvert sa violence paradoxale. Convertir une ouverture en fermeture. Un achèvement en chute. Réformer un appel d'air en asphyxie générale. Ou comment une scène d'intronisation, celle d'Angelica dans la haute société palermitaine, elle est la fille si belle de Don Calogero, le paysan parvenu et tout juste fiancé à Tancredi, le neveu chéri du prince, elle est ce corps qui illumine et contamine l'assemblée, ce corps qui prend le pouvoir et enfin elle est étrangère. Se métamorphose inéluctablement en scène de crépuscule, en description quasi anatomique d'un monde qui sombre. Le bal déploie une danse macabre, ritualisée comme une mise à mort, lente manœuvre d'encerclement qui peu à peu finit par asphyxier son objet, et le prince d'ailleurs semble pris de nausée au spectacle de cette noblesse rongée par l'endogamie, corrodée par sa propre vacuité, par la vanité de son existence. Il suffoque, étouffe, la fatigue pèse sur ses épaules. C'est physiquement que se manifeste en lui la présence de la mort et la fin d'un temps. Aussi, cherchant de l'air et du silence, fuyant la foule des invités, se réfugie-t-il dans la bibliothèque où un tableau de Greuze le renvoie à la vision de sa propre fin, comme s'il n'était aucune issue possible à ce bal, hormis la main d'Angelica qui l'invite à danser, cette chair saine, neuve, pleine. Par sa durée affolante, étirée à l'extrême, la séquence du bal tend à faire craquer la structure du film dont elle occupe le tiers final, ou plutôt déséquilibre l'œuvre vers sa fin, comme la charge d'un navire excessive ou mal arrimée le retourne. De fait, tout ici est question de gravité, de pesanteur, de lourdeur, de surcharge, d'écœurement, voire de putréfaction. Images saturées de décors époustouflants, intégrant tableaux et objets authentiques prêtés lors du tournage par des familles nobles de Palerme. Foisonnement des costumes chamarrés, crinolines gonflées, candélabres et bougies allumées, luxuriance des plantes et des fleurs, éclat aveuglant des lustres à pampigues, des verres, de l'argenterie, des bijoux. Si bien que le bal ploie sur lui-même, s'infléchit dans une torsion douloureuse, dont la valse du prince et d'Angelica est à la fois le moteur et l'horizon. Épicentre éclatant de la fête, le couple, immiscé dans la foule des invités, progressivement s'en détache et prend place, fait le vide autour de lui, focalisant les regards de ceux qui se sont peu à peu figés pour le contempler, devenant dès lors les spectateurs de leur fin. Puisque tout ici manifeste que cette valse est la dernière de son espèce, qu'elle est exactement ce que l'on nomme le chant du cygne. Je suis ressorti du cinéma dans la nuit, sonné. Je me suis demandé si le nouveau regard que je portais sur le film tenait à sa restauration, justement, à ses couleurs revivifiées, à ses contours plus nets, à sa charge plus tranchante, à rebours du vintage des années 1960. J'ai descendu d'un pas rapide le boulevard Saint-Michel désert en direction de la Seine, absolument mat. Et pile à l'instant où j'allais passer le fleuve et couper par le parvis de Notre-Dame, j'ai réalisé que Visconti avait filmé le bal du Guépard exactement comme un naufrage. À ce stade de la nuit, le visage de Burt Lancaster tend à s'effacer et je veux fumer. Une cigarette, il m'en faut une. Il y en a dans l'appartement, je le sais. Pour autant, je ne veux pas m'éloigner de la cuisine où se relaient en un continuum catastrophé les réactions internationales, crescendo de voix politiques parmi lesquelles celle du président du Parlement européen, celle du président de la Commission du Sénat pour les droits de l'homme, celle de la ministre de l'Intégration. Des voix italiennes, métalliques, saturées de sentiments, vibrent sous celles plates des interprètes. Elles enchâssent Lampedusa dans sa langue d'origine, où je le repère facilement. Il est étrange de voir à quel point le nom propre est indifférent à la phrase où il se place et roule entre les mots comme un caillou qui pourtant propagerait sa poésie. Burt Lancaster est maintenant recouvert d'une autre strate de signes, 9 lettres, dont 2 identiques, ou plutôt Lampedusa, quand je le vois, quand je le prononce à voix haute, cesse d'appeler uniquement un visage pour convoquer 4 mots qui forment un nom sur la couverture d'un livre. Giuseppe Tomazzi di Lampedusa. J'explore ce nom, j'en fais le tour, je le soupèse et le décompose. J'y entends, in fine, ce toponyme, ces 4 syllabes qui font surgir un espace, catalysent le soleil et l'histoire, le sec, la poudre, la guerre, l'or et le rouge, le délabrement, quelque chose d'archaïque et de langoureux. Ce nom qui est déjà un récit. Je découvre qu'il désigne entre autres choses et titre de noblesse le 11e prince de Lampedusa. Il me fait voir un périmètre aux contours circonscrits, une terre envisagée comme origine et comme fief, sans que je sache pourtant si c'est l'île, Lampedusa, qui appartient à l'homme, ou l'homme, Giuseppe Tomazzi, qui lui appartient. Je creuse autour de ce petit « de » qui articule l'ensemble. Je veux comprendre ce qu'il signifie, perçois soudain le mouvement qu'il déploie, et alors un homme apparaît, Giuseppe Tomazzi di Lampedusa. Autrement dit, un homme issu, surgit, venu de cette île. Voici pour ce soir donc cet extrait de l'œuvre de Mélis de Kerangal à ce stade de la nuit que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.